Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et c'est parti pour environ 20 minutes d'information avec le carnet de région, l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée avec la participation des radios associatives qui vous proposent au sommaire cette semaine un projet qui donne une seconde vie aux déchets portés par des enfants, des écoles maternelles et élémentaires, même des enseignants, des élus et même le cuisinier qui a mis à la pâte, nous le verrons, sujet de nos confrères de Radio Bartas. Présentation du tout nouveau schéma départemental de l'Hérault et schéma départemental Hérault irrigation. Ça sera avec le président du conseil départemental, Kléber Mesquida, au micro de Radio Lodève. Le groupe naturaliste de l'Université de Montpellier propose les 24 heures de la biodiversité. Nous en parlerons également. L'école associative de Clermont-l'Hérault nous ouvrira ses portes, sujet de Radio Pays d'Hérault. Et pour terminer, tout au long du week-end, à Agde, c'est justement là-bas que ça va se passer pour régaler vos papilles avec le salon de la gastronomie au Moulin des Évêques à Agde, avec comme invité pour ce salon, ça sera nos amis les Corses. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. À Florac, en Lozère, on se réjouit de ce que l'on peut et l'on célèbre, les petites initiatives locales, car tout part de là. Loin des grands projets industriels et des actions d'envergure, ici on fait soi-même et avec les autres. Mardi dernier, c'était l'inauguration de l'aire poulailler compost à Supagro, un projet porté et réalisé par les enfants des écoles maternelles et élémentaires, les enseignants, des élus et le cuisinier de Supagro, tout ce petit monde ensemble pour donner une deuxième vie aux déchets de la cantine dans le gosier caquetant des quatre poulettes de la nouvelle ère.
Bienvenue à tous pour le grand jour du démarrage du poulailler et de l'aire de compostage. Donc avant vos déchets de cantine, prenez le camion et était enfoui à Mende, au site de Ridoundel, au SDEE. Aujourd'hui, ces 3,5 tonnes par an de déchets se transforment en ressources et ils vont être utilisés sur place comme nourriture pour vos 4 poules et transformés en compost pour nourrir le sol.
Longue vie à ce composteur et à ce poulailler.
C'est un projet où les enfants et les adultes passent à l'acte. Il redonne du pouvoir d'agir dans un contexte environnemental qui nous presse.
On va couper le ruban et puis y faire sortir les poules alors.
Bon, alors normalement, dans les cérémonies, il faut qu'il y ait des discours. Donc celui-là, il fait une heure et demie, donc ça ne prendra pas trop de temps. Non ? Bon, c'est embêtant, les discours, c'est vraiment embêtant. Donc on va faire un tricot. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir fait cette action avec les enfants. Parce que c'est vous qui portez, et qui vous pousserez vos parents à faire le geste écologiste, de faire attention, de bien trier ses produits, de bien... composter pour ceux qui compostent. C'est pour ça que c'est important de commencer dès le plus jeune âge, parce que c'est des réflexes qui durent toute la vie. Je voudrais remercier vraiment cette action collective, enfants, parents, enseignants, partenaires, qui a permis de réaliser cette belle œuvre. Voilà. Et on peut terminer qu'en disant vive le compostage.
Un, deux. Christian, s'il te plaît, tu peux venir pour libérer les poules. Alors ces poules, elles viennent pour deux d'entre elles, du Pompidou. C'est Monsieur Jodard qui élève des variétés de poules sélectionnées. Et puis il y a Christian Rameau, conseiller municipal, qui en a donné deux. Voilà.
Regardez-vous, Christophe.
francs les deux premiers œufs.
C'était un reportage de Manon pour Radio Barthes. Ce mercredi matin à Gignac, le monde viticole était présent en grande pompe en mairie pour écouter la présentation du schéma départemental Hérault Irrigation, avec notamment la présence des élus du conseil départemental et de son président Kléber Mesquida qui a initié ce projet. Il revient justement au micro de Damien Saint-Thès de Radio Lodev sur les raisons de ce schéma et sur, surtout sur les solutions envisagées. Nous l'écoutons.
Le contexte, tout le monde a bien vu que les années de sécheresse se succèdent et que l'on prévoit d'ici à 2050 une augmentation de la température de 1 degré à 2,5 degrés. Donc c'est énorme et on a bien compris qu'il y avait un enjeu important. Si on voulait que la viticulture perdure, que les vignobles puissent résister dans l'Hérault, il fallait amener de l'irrigation. J'avais assisté à une conférence d'un chercheur de l'INRA qui nous avait dit que si dans les 10 ans on n'irriguait pas dans le sud de la France, notamment dans l'Hérault, c'est la disparition de la vigne. On comprend bien que l'impact paysager et économique que cela aurait nécessitait pour nous d'être réactifs. C'est pour ça que j'ai proposé à l'Assemblée départementale cette étude Hérault Irrigation avec un projet qui a été mené en collaboration étroite avec les services de l'État, avec des bureaux d'études spécialisés. Aujourd'hui, on est en phase de restitution. On présente l'étude, on présente les différentes solutions avec bien sûr la canalisation du Baron, mais également des retenues hivernales qui permettront de stocker de l'eau pour pouvoir ensuite irriguer en saison. C'est un gros projet de l'ordre de 310 millions d'euros que l'on se fixe réaliste à l'horizon 2030 et qui permettra, lorsqu'il y aura des volontés locales par des micro-territoires, de mettre en œuvre ces projets-là, mais toujours en liaison avec la profession. On a repéré la faisabilité, il y avait 22 sites potentiels. On a retenu 9 sites qui sont adaptés et ce seront des micro-retenues qu'on appelle des retenues hivernales. Donc ça aura un double effet. D'abord, ça évitera l'érosion des terres, ça évitera dans certains secteurs des inondations, mais ça permettra d'avoir des réserves d'eau pour y tirer dessus et procéder aux irrigations d'été. Tout le monde sait que la vigne a besoin d'une certaine quantité d'eau, n'a pas besoin d'être inondée et qu'il n'est plus question d'arroser avec les grands asperceurs comme on l'a connu à l'époque. C'est une irrigation goutte à goutte, raisonnée. Et maintenant, il y a des start-up qui ont développé des sondes qui sont dans la terre et qui déclenchent le besoin d'irrigation et la quantité d'irrigation. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'irrigation raisonnée. Tout est calculé pour ne pas gaspiller une seule goutte d'eau.
L'objectif du département est d'assurer l'irrigation complémentaire de 22 000 hectares sur le département en 2030. Merci à Damien Saint-Thès de Radio Lodève pour nous avoir proposé ce sujet dans le carnet de région. Oiseaux, insectes ou encore serpents, ils seront nombreux et vous pourrez justement les voir à l'occasion de la richesse de la faune et de la flore aux 24 heures de la biodiversité. Ça s'est passé cette semaine avec les étudiants réunis et qui a présenté justement au grand public et au Jardin des Plantes de Montpellier. Antoine Adam, président du groupe naturaliste de l'Université de Montpellier, il était au micro cette semaine. Danaï Chebarn pour RCF Maglonero.
C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en France. Le but, c'est sur 24 heures d'aller sur un site et de faire l'inventaire d'un peu tout ce qu'il y a de la biodiversité. Les serpents, les insectes, les poissons, les lichens, les mousses, que sais-je. Bon, bien sûr, pour ça, on a besoin de naturalistes qui s'y connaissent. Mais le véritable objectif des 24 heures, c'est de faire participer les gens, les habitants, les locaux, pour tout simplement leur faire découvrir la biodiversité qui les entoure. En fait, il n'y a pas du tout besoin d'aller dans des forêts amazoniennes ou d'aller dans l'Himalaya à la recherche des pandas et des tigres pour voir de la biodiversité et des trucs vraiment sympas. Il y a ça tout autour de nous. Il suffit de prendre le temps de se pencher un petit peu et de regarder ce qu'il y a. Et donc c'est ce qu'on propose avec les 24 heures qui auront lieu cette année, donc samedi 6 avril, au Jardin des Plantes de Montpellier. Donc voilà, c'est en pleine ville, c'est accessible à tous en transport, etc. Et pourtant, eh bien, soyez sûrs qu'on va trouver plein de choses, même au cœur de la ville.
Justement, quel est le programme de ce rendez-vous?
En vrai, on a triché un peu, hein, cette année, ça se déroule sur 48 heures. Il y a une première partie qui commence dès le vendredi matin, mais qui est à destination des scolaires, puisqu'on accueille des classes de REP, donc les réseaux d'éducation prioritaire sur le campus de la Fac des Sciences, pour leur proposer de découvrir la biodiversité eux aussi. Le soir, à 17h, on a l'inauguration d'un concours photo à la bibliothèque universitaire de la Faculté des Sciences. Concours photo qui a été lancé en vue des 24 heures, donc avec des photos naturalistes, suivi d'un repas partagé qui est fait à base d'amandus, donc pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, ce qu'on appelle communément une disco-soupe pour les connaisseurs. Et après ça, on aura une petite conférence sur la biodiversité et les savoirs locaux. Le lendemain, on se donne rendez-vous au Jardin des Plantes de Montpellier. Là, c'est la grosse journée vraiment pour tout le grand public. On aura des inventaires tout au long de la journée. Alors, on commence par les oiseaux à 8h du matin. 8h, c'est tôt un samedi matin. Mais malheureusement, les oiseaux chantent après le lever du soleil et ils ne vont pas nous attendre. Et puis, on enchaîne des petits inventaires comme ça, botaniques, entomologiques, etc. jusqu'au soir. On finira par les papillons de nuit et les chauves-souris. Dans la journée, en même temps, il y aura trois conférences qui vont se succéder. Vous pouvez aller voir le détail sur le site internet. Et puis, on a aussi tout un village associatif qui se tiendra sur le site du Jardin des Plantes. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'associations qui sont présentes pour montrer leur travail. Alors, c'est des associations qui œuvrent globalement dans la médiation scientifique, l'environnement et l'écologie. C'est un peu l'occasion de mettre en lumière le travail que font tous les gens qui s'engagent, tous les bénévoles. Bien souvent, on les voit pas trop dans la société civile, hein, ils œuvrent derrière, mais c'est quand même des gens qui passent beaucoup de leur temps à faire en sorte que, là, finalement, à préserver le bien commun, que venez découvrir leur travail.
Se sensibiliser autour de la biodiversité, c'est d'autant plus important, j'imagine, alors que tous les vendredis, les jeunes se mobilisent pour le climat.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du climat, ça ne doit pas nous empêcher aussi de penser à d'autres problèmes, notamment l'érosion de la biodiversité. Il y a plein d'autres problèmes en fait environnementaux qui sont tous liés de toute façon de près ou de loin. Personnellement, j'aimerais bien que mes enfants connaissent des tigres, des ours ailleurs que dans le livre de la jungle, qu'ils puissent se dire que ça existe encore en fait quelque part.
C'était Antoine Adam, président du groupe naturaliste de l'Université de Montpellier. L'école associative de l'arbre à pépins est née il y a un an environ, en janvier 2018, à Uclas d'Hérault, tout près de Clermont-l'Hérault. Au départ du projet, c'est la directrice Sophie Labouret, alors enseignante en pré-retraite de l'éducation nationale, qui cherchait à monter son propre projet après 25 ans d'enseignement. Elle a été vite rejointe par Julie Belfort et leur école a ouvert grâce au financement participatif, composé d'une classe unique de 13 élèves âgés de 3 à 11 ans. Les matinées sont dédiées essentiellement aux matières classiques, mathématiques, français. Et puis l'après-midi, c'est plutôt dédié aux activités. L'arbre à pépins propose en effet une pédagogie de troisième type, comme l'explique Julie Belfort, qui est responsable pédagogique.
L'arbre à pépins, à ma connaissance, on est la deuxième école en France à faire ce qu'on appelle une pédagogie dite du troisième type, que Bernard Collot, Philippe Quellen et toute leur bande ont théorisé, puis mis en pratique dans leur classe en école publique au départ. C'est-à-dire que c'est une pratique pédagogique où au départ on change de paradigme. C'est plus l'adulte qui est face aux enfants, c'est l'adulte qui est avec les enfants, en coopération, accompagné à l'expérimentation, en fait réellement trouver qui on est. L'idée, c'est plus l'adulte qui est maître du savoir et seul détenteur des savoirs et savoir-faire. Et au contraire, en fait, on est vraiment le plus possible horizontaux avec les enfants. Sophie s'occupe de vraiment tout ce qui est apprentissage académique et formel. Après, d'une manière, disons, c'est quand même, on est dans des pédagogies actives. On n'est pas du tout sur le même type de pratique pédagogique qu'à l'école publique. Et puis du coup, après, on est en transversalité toutes les deux sur différentes activités. On accompagne les enfants beaucoup sur les arts plastiques, créativité de toutes sortes. Là, on démarre aussi des enregistrements sonores avec eux et puis un peu de théâtre. Et en fait, on suit un petit peu leur fil à eux et leurs envies à eux.
C'était Julie Belfort, aujourd'hui responsable pédagogique à l'Arbre à Pépins. Association de loi 1901, l'Arbre à Pépins cherche, outre l'école, à proposer d'autres activités comme des stages de théâtre ou encore de l'accompagnement à la parentalité. L'année prochaine, les enseignantes ne souhaitent a priori pas accueillir d'enfants supplémentaires en maternelle, mais elles restent cependant ouvertes aux inscriptions et cherchent à accueillir plus d'enfants en âge de lire. Merci à nos confrères de Radio Pays d'Hérault pour ce sujet de cette école associative. Allez, c'est vos papis qui vont être contents tout au long de ce week-end et vous régaler. C'est le salon de la gastronomie au Moulin des Évêques à Agde qui a débuté aujourd'hui, va se dérouler jusqu'à dimanche avec au total plus de 80 exposants avec des produits producteurs issus du territoire local et au-delà de l'Occitanie. Ricardo de la Cueva nous en dit plus.
Beaucoup de personnes aiment les bons produits, aiment la gastronomie, aiment justement découvrir des produits originaux pour peut-être préparer des recettes justement qui vont surprendre la famille, qui vont surprendre des amis à l'occasion, peut-être aussi, vu que nous sommes à l'approche des fêtes de Pâques, de se donner des idées pour se dire, tiens, pour un repas original, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme recette? Et là, on a justement tout un panel et un choix assez exceptionnel à l'occasion de ce salon. L'idée, c'est aussi un peu de... alors, il y a des exposants, mais aussi de faire participer le public à l'événement en réalisant une recette autour des produits de la mer. Justement, ben, en étant en bord de mer, c'est l'occasion de s'exprimer. Et l'idée, c'est justement de partager ce plaisir de cuisiner. Et ce concours, c'est vraiment l'idée de quelque chose de convivial et de faire une recette qui va être présentée à l'assiette à des chefs qui seront présents tout au long de ces 3 jours pour bah, après, on va dire, faire un gagnant qui aura fait une recette qui sort un petit peu du lot, comme on dit. Mais bon, on va dire, tous les participants sont obligatoirement gagnants. Et surtout, l'idée, comme je vous disais, c'est de partager ces moments agréables qui est autour d'un plat.
Alors parmi les temps forts de ce week-end, vous invitez aussi des producteurs corses dans ce salon.
C'est ça. Alors cette année, on a voulu mettre à l'honneur l'île de Beauté avec aussi des saveurs et des produits très gourmands, hein, parce que avec différentes rencontres, on a justement eu l'occasion de partager avec des personnes, des producteurs de Bastia qui seront présents et de découvrir ensemble des produits originaux. Et puis surtout, on va vouloir proposer aux visiteurs qui viendront sur le salon la possibilité de manger des produits corses, de les déguster sur place, vu qu'on va pouvoir proposer des repas corses avec du veau à la broche, avec du cochon de lait, avec bien sûr de la charcuterie, avec aussi des bons fromages corses et puis différents savoir-faire qui seront présentés cette année en exclusivité.
Donc ça, c'était pour la Corse à l'honneur. Et puis parmi aussi les autres temps forts, vous l'avez rappelé il y a quelques instants, ce sont de nombreux chefs invités d'honneur.
Tout à fait. Alors nous avons notre parrain Michel Grosbon. C'est une personne qui a eu l'honneur de cuisiner pour différents présidents américains. Donc il a travaillé pour ces personnes et puis pour aussi des artistes comme Michael Jackson, comme aussi Tino Rossi, enfin bon, plusieurs artistes aux États-Unis. Bon, je ne les connaissais pas tous, mais justement, Michel Grosbon sera là pour partager avec le public à l'occasion de démonstrations, de recettes. Il a aussi mis à l'honneur le foie gras, le travail du foie gras au cacao, par exemple. Ça fait partie d'une de ses créations originales. Et nous aurons d'autres chefs de la région, comme par exemple Fabien Fage, qui est récemment à nouveau étoilé avec le restaurant The Marcel à 7, comme Franck Radu, qui a participé à Top Chef. Donc on a vraiment une belle sélection de chefs qui seront en démonstration sur le salon, qu'on pourra d'ailleurs retrouver sur le programme, sur le site du salon, salon de la gastronomie, agde.fr.
Un sujet bien gourmand et donc avis aux amateurs et aux passionnés également de la bonne gastronomie. C'était un sujet de RCF Maglon Hérault. C'est avec justement cette actualité que se conclut ainsi ce nouveau magazine d'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Merci à toutes les radios qui ont participé et élaboré ce nouveau rendez-vous d'information ici en région. Merci aux autres qui diffusent ce magazine. Prochain retour, c'est la semaine prochaine, bien sûr. Même endroit, même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Passez toutes et tous une très belle semaine. C'était le carnet de région, l'actualité en région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.